À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de notre balado hebdomadaire sur la glace, édition du 7 mars 2022. Encore une fois, ce soir, pour ceux qui vont écouter le balado en ce lundi 7 mars, bien, nous avons un match du Rocket pour un deuxième lundi de suite. On va compléter ce soir à Laval une séquence éreintante. C'est vraiment éreintant. Écoute, on est en tant que diffuseur, on est fatigué, nous, alors on imagine bien les joueurs ressentir un peu la même fatigue. 7 matchs en 11 jours, tous à domicile. C'est quand même beaucoup de travail. Le Rocket, qui jusqu'à maintenant a une fiche de 3 victoires, 3 défaites dans cette séquence. On va y revenir. On va s'entretenir dans quelques instants avec Danick Martel, attaquant du Rocket de Laval. Au menu également pour vous aujourd'hui, dans la Ligue junior majeure du Québec, on va aller faire un petit tour du côté de Charlottetown, parler à l'espoir du Canadien Xavier Simoneau. Les Islanders de Charlottetown qui sont venus gagner 2 matchs par jeu blanc au Québec jeudi et vendredi dernier, dont une grosse victoire à Shawinigan, il faut le dire, vendredi soir. J'ai fait un brin de causette également avec l'entraîneur-chef du Titan d'Acadie Batters, Jason Clark. Je vais faire un tour à Gatineau jeudi dernier, jeudi le 3 mars, pour assister au match entre le Titan et les Olympiques, un match qu'incidemment les Olympiques ont emporté. Mais il reste que Jason Clark, d'une façon générale, connaît beaucoup de succès depuis son arrivée à la barre du Titan. Alors, on va faire un brin de jasette avec lui, parler entre autres de Bennett MacArthur, qui a obtenu un contrat professionnel avec le Lightning de Tampa Bay la semaine dernière. Un joueur qui était autonome, qui n'appartenait pas à aucune équipe. Alors, c'est ce qu'on a également pour vous. On va aller faire un petit tour également dans l'Ouest, en Ontario, parler un peu de la Ligue Midget 3 en fin d'émission. Mais évidemment, ce qui retient l'attention cette semaine, c'est le cas de le dire, c'est le Rocket de Laval. On s'est parlé lundi dernier, 28 février. On s'apprêtait à jouer le match en soirée contre Cleveland. Depuis ce temps-là, il y a eu un match. Le lundi soir, le Rocket a gagné. Mercredi contre Cleveland, le Rocket a échappé le match. Vendredi, ça a peut-être été la pire performance de la semaine là, contre les Canucks d'Abbotsford. On sentait qu'il n'y avait pas d'énergie à partir de la deuxième période. L'équipe n'avançait plus là, du côté du Rocket. Mais coup de théâtre, samedi, l'équipe a rebondi, même si le match était à 13h de façon éloquente. Un gain de 3-0 contre ces mêmes Canucks, qui n'avaient que 3 tirs au but après 31 minutes de jeu. Alors, ça donne un peu l'allure du match. Après une période, c'était 17-2, les tirs au but favorisant le Rocket. Alors, le Rocket a gagné ce match-là 3-0 avec Kevin Poulin devant le filet pour un deuxième match de suite, puisque vendredi, Caden Primo a été rappelé d'urgence pour aller rejoindre le Canadien à Edmonton. Alors, le Rocket s'est retrouvé dans l'obligation d'utiliser Poulin 2 matchs de suite. On avait d'abord ramené Tristan Bérubé là, pour venir seconder Kevin Poulin. Finalement, là, on a ramené à compter de ce matin Louis-Philippe Guindon. Alors, pour l'instant, le tandem, c'est Poulin et Guindon, alors que Primo est avec le Canadien en ce moment. On sait que Michael McNiven a quitté l'organisation, a été cédé là, contre des célèbres considérations futures. Ça, c'est lundi dernier. Justement, c'était lundi après notre balado-diffusion, donc lundi en fin de journée. Alors, il a été échangé contre des considérations futures aux Flames de Calgary. Il y a eu du mouvement de personnel également, puisqu'il y a des blessés chez le Rocket de Laval. On s'y attendait avec les matchs qui se succèdent à un brin très rapide. On a perdu au cours de la dernière semaine Toby Paquette-Bisson, qui était le seul joueur du Rocket à avoir disputé tous les matchs depuis le début de la saison. Et également Gianni Fairbrother, qui a été blessé vendredi. Donc, on a été dans l'obligation de lancer un SOS à Olivier Galipeau du côté des Lions de Trois-Rivières. Lui qui connaît une excellente saison à Trois-Rivières. Il a bien fait dans le match de samedi. Alors, il est toujours avec l'équipe. Le Rocket qui a annoncé également ce matin avoir prolongé l'essai professionnel au vétéran Devante Smith-Pelly, qui a connu un certain succès là, au cours des derniers matchs. Il a commencé à marquer des buts. On le sent un petit peu plus... qu'il retrouve sa coordination et tout ça. Alors, il est toujours dans l'équipe, mais lui aussi s'est blessé à une cuisse vendredi, ne participera pas au match de ce soir contre Springfield. Les autres blessés, ben, dans le cas de Luca Vaidemo, ça va être plus long qu'on pensait. On parle peut-être de la mi-avril. Alex Belzile, on parle peut-être du début avril dans son cas. Et Josh Brook est retourné sur la liste des blessés. Brandon Gignac est revenu pour un match, a marqué d'ailleurs vendredi soir, mais n'était pas disponible samedi et ne joue pas également ce soir. Jean-Christophe Beaudin, c'est au jour le jour, là, va accompagner l'équipe sur la route cette semaine. Est-ce qu'on a fait le tour là, des blessés? Oui, j'ai fait le tour. Dans le cas de Fairbrother et de Paquette Bisson, ben, on a subi des examens par résonance magnétique au cours des dernières heures. On attend les résultats pour la gravité là, de ces absences-là. Donc, en résumé, tout ça, ben, le Rocket a 3 victoires, 3 défaites dans ce séjour à domicile. Joue ce soir, donc, dans le fond, le 7e match contre Springfield. Ce ne sera pas facile. Les Thunderbirds de Springfield, Club École des Blues de Saint-Louis, sont 2e présentement dans la section Atlantique derrière les Bruins de Providence. Springfield qui aligne, entre autres, et c'est lui qui sera devant le filet ce soir, Charlie Lindgren, l'ancien gardien du Rocket de Laval, qu'on va donc retrouver devant le filet de Springfield ce soir. Question de faire le point un peu, de jaser de l'actualité avec le Rocket. Un petit peu plus tôt ce matin, je me suis entretenu avec l'attaquant Danick Martel, qui est devenu un joueur de centre là, avec les blessures à Vaidemo et à Belzile. Martel qui est toujours bien impliqué physiquement. Alors, on vous présente cet entretien qu'on a eu avec le numéro 18 du Rocket.
Jouer 6 matchs en 9 jours. Vendredi, on vous sentait complètement épuisé, puis samedi, vous avez peut-être joué un des bons matchs là, qu'on a vu cette année. T'expliques ça comment?
C'est sûr que c'est avec l'expérience aussi. On a quand même beaucoup de jeunes dans l'équipe. C'est une des premières fois qu'ils vont jouer autant de parties en peu de jours. Mais je pense qu'on est bien revenu samedi. En série éliminatoire, ça se peut que ça arrive, qu'on joue beaucoup de games en peu de jours. On est bien revenu la 2e game contre une bonne équipe. Fait qu'il faut être fier de ça, puis il faut build on parce qu'on a une autre grosse semaine qui s'en vient.
C'est une bonne équipe ce soir aussi. C'est une équipe qui se maintient parmi les équipes de tête. Tu vois ça comment, la game? C'est pas une équipe qu'on a vue souvent. Vous avez joué juste une fois contre eux autres.
Oui, exact. Je pense que c'est pour ça qu'il faut jouer notre rôle. Il faut jouer de la façon qu'on est habitué de jouer, d'amener le plus d'intensité possible. Mais c'est une équipe qu'on est capable de battre. On les a déjà rencontrés là-bas à Springfield. Mais je pense qu'on est capable de battre toutes les équipes dans la Ligue quand on joue à notre façon. Fait qu'il faut juste le montrer à soir encore qu'on est une des meilleures équipes de la Ligue.
Quand tu regardes tes stats depuis le début de l'année, personnellement, es-tu satisfait ou tu pensais que ça irait plus que ça?
C'est sûr que je suis déçu. Je l'ai dit depuis le début de l'année, mais en même temps, j'amène un rôle différent cette année. J'essaie d'être le meilleur leader possible. J'ai un rôle un petit peu plus défensif. Donc, je trouve que ma saison, d'une certaine façon, dans le rôle que j'ai, va quand même assez bien. Puis les buts sont à suivre, mais c'est sûr que j'amène quand même énormément d'offensives. Il faut juste que la production offensive au niveau des points là, commence à mieux s'inscrire sur la fiche de pointage.
Si je t'avais dit en début de saison qu'au début du mois de mars, tu serais presque le joueur le plus puni de l'équipe, tu trouverais-tu ça? C'est-tu quelque chose que tu t'attendais ou?
Ben, ça ne me surprend pas. Là. Je pense que pas mal à toutes les années, je suis quelqu'un qui a quand même pas mal de punitions, que ce soit avec des batailles, que ce soit avec des 2 minutes, mais je pense que je suis involved dans le jeu. Fait que quand il y a des scrums, c'est sûr que souvent, je suis peut-être la victime qui va sortir avec un 2 minutes, mais en même temps, ça joue dans mon rôle. J'ai tout le temps joué comme ça, puis je me suis rendu où je suis comme ça. Fait que peu importe le nombre de minutes que j'ai, je vais continuer à jouer mon rôle.
Le fait là, qu'on t'utilise au centre plus, c'est quelque chose qui n'était pas le cas en début de saison, là, avec les blessures à Belzile puis à Vaidemo notamment.
Oui, c'est pas une position que j'ai été habitué de jouer dans les dernières années. Mais en même temps, j'ai joué junior au centre. Je sais comment un peu ça fonctionne. Je suis capable de prendre des face-offs. Fait que c'est juste de jouer bien défensivement. Puis je pense que j'ai réussi à le faire très bien depuis le début de la saison, que ce soit à l'aile gauche, à la droite ou au centre. Fait que je profite du temps de glace que j'ai présentement, puis on essaie d'amener le jeu à un autre niveau.
Si on considère tout ce qui est arrivé à cette équipe-là, 42 joueurs différents qui ont joué, les blessures à Montréal, les rappels, puis tout ça, d'être comme à un point de la 2e place de la section, là, ça démontre quand même ce que vous avez réussi à faire cette année. Là. Je veux dire, vous avez traversé les tempêtes, puis vous êtes encore plus fort de la course.
Oui, mais on savait au début de l'année là, à quel point on avait de la profondeur. Puis je pense qu'on le voit au niveau du classement, on réussit à quand même donner une bonne bataille au niveau des playoffs. Puis, je pense que ça prouve à quel point que le Canadien a quand même bien fait leur travail au niveau de l'été, peut-être pas au niveau de la Ligue nationale, au niveau de la Ligue américaine, on a énormément de profondeur. Fait que ça peut nous amener loin avec les blessures au niveau des séries éliminatoires.
Je veux t'entendre sur le retour de la foule là, dans la dernière semaine avec la semaine de relâche. Puis ça, il y a quand même eu des bonnes foules, même s'il y avait eu beaucoup de matchs.
Oui, comme moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'émotions quand il joue, qui a besoin de sentir les émotions derrière moi. Je pense que le retour de la foule a vraiment aidé au niveau de justement la fatigue aussi. Là, la partie de samedi, on avait besoin des partisans, ils ont été là pour nous, puis je pense que ça nous a vraiment aidé.
On parlait ce matin avec Jean-François, puis je vais te laisser aller après ça là-dessus, mais un gars comme Devante Smith-Pelly dans le vestiaire, il est comment? On a renouvelé là, son contrat, il reste avec vous. Tu sais, c'est un gars qui arrive quand même de la Ligue nationale, qui a gagné la Coupe Stanley, qui a joué à 19 ans dans la Ligue nationale, puis là, se retrouver dans la Ligue américaine avec un paquet de joueurs là, tu sais, francophones qui sont des chums pour la plupart. Comment il fit là-dedans?
Il fait super bien. Je pense que c'est un gars assez professionnel. Il fait ses petites choses, mais c'est un bon leader dans la chambre. Quand il a l'opportunité de jouer, on le voit dans les dernières parties, 3 buts à ses 4 derniers matchs. Il performe très bien, fait que on est fiers de lui, puis je pense qu'il fit très bien dans notre organisation.
Même quand il ne joue pas, ça, tu sens pas un peu de frustration?
Ouais? Non, effectivement, puis c'est pour ça qu'il fait un bon leader. Je pense que s'il y aurait une mauvaise attitude, je ne pense pas qu'il aurait renouvelé son contrat pour le reste de la saison. Fait que je pense qu'il prouve à quel point c'est un bon leader et c'est une bonne personne à rester autour. Fait qu'il joue ou qu'il ne joue pas, il est important dans notre locker.
Danick, merci beaucoup. Bonne chance pour le match de ce soir. Puis il y a une grosse semaine en avant de vous aussi qui s'en vient. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Parfait, merci.
Alors voilà donc pour Danick Martel. Peut-être vous résumer là, la situation dans la section Nord. Évidemment, les Comets de Utica vont gagner le championnat. Là, ils ont 17 points d'avance sur les Marlies de Toronto avec un taux d'efficacité de 724. Alors, à moins d'une catastrophe, là, le club école des Devils du New Jersey va terminer au premier rang. Par la suite, c'est extrêmement serré. Là, Toronto, deuxième, Laval, troisième, Rochester, quatrième, Belleville, Syracuse et Cleveland, qui est peut-être un peu en retrait. Là, les deux dernières équipes ne participeront pas aux séries. Alors, si ça se terminait aujourd'hui, là, c'est Syracuse et Cleveland qui seraient exclus des séries. Dans le cas de Laval, là, c'est pratiquement la même fiche que les Marlies. Un point de retard après 46 matchs. Les deux équipes ont encore 26 matchs à jouer. Il y a plusieurs affrontements, un contre l'autre, d'ici la fin de la saison. Il y a un gros match mercredi également pour le Rocket contre Rochester, avant de prendre la route vendredi et samedi de Lehigh Valley et de Scranton-Wilkes-Barre. Ça, c'est deux équipes de la section Atlantique. Deux équipes qui ont des dossiers inférieurs à celui du Rocket. Alors, pour le Rocket, cette semaine, c'est un autre coup à donner, comme on dit, de disputer encore une fois une semaine de 4 matchs. Ça devient extrêmement exténuant à la longue, mais il en demeure pas moins là, que le Rocket se maintient. J'ai bien hâte de voir le match de ce soir. Dans le fond, si on prend la semaine de 7 matchs comme une série 4-7, ben c'est 3-3 venir jusqu'à présent. 3 victoires pour le Rocket, 3 défaites. Il y a des défaites qui ont fait mal, là, on l'a dit la semaine dernière, celle de samedi, là, samedi le 26 février, là, alors que Laval menait 3-0 contre Belleville, a échappé le match. Même chose contre Cleveland, mercredi, tu mènes 2-1 en mi-chemin en troisième période, échappe le match en temps réglementaire. Alors, c'est des points qui ont été laissés sur la table. Peut-être que ce soir, Laval pourra faire amende honorable et terminer cette séquence de cette match avec une 4e victoire. Le seul affrontement cette saison entre les deux équipes a eu le 14 janvier à Springfield et Laval l'avait emporté en tir de, pas en tir de barrage, mais en prolongation. C'est Jean-Sébastien D qui avait marqué le but gagnant. Justin Ducharme avait profité de ce match-là pour marquer son premier but et Kevin Poulin avait été solide devant la cage du Club École des Blues de Saint-Louis. Voilà donc pour notre segment sur le Rocket. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior-majeur du Québec. Là aussi, il y a beaucoup de matchs en peu de temps pour la plupart des formations. Ça roule à un rythme d'enfer. J'ai eu la chance, comme je le disais plus tôt, d'aller faire un petit tour à Gatineau jeudi pour un match. Honnêtement, là, avec les matchs qui se succèdent à un rythme effréné au niveau de la Ligue américaine, c'est un petit peu plus difficile d'assister à des rencontres. Mais quand on regarde le classement, là, on se rend compte d'une chose. Il y a 7 formations là, qui sont un peu détachées, là, si on veut, du reste du groupe. Quand tu analyses la situation, là, oui, Halifax joue du bon hockey, mais je pense est dans une coche à part. Alors, c'est une lutte à 7. Là, Québec, Charlottetown, Shawinigan, Gatineau, Sherbrooke, Saint-John et Acadie-Bathurst. Et au fil des semaines, ben, les performances varient entre ces équipes-là, mais ces 7 formations-là, là, vont, selon moi, toutes participer à la ronde quart de finale, la 2e ronde. Et on aura par la suite une huitième équipe qui va s'insérer là-dedans. Et c'est en deuxième ronde que ça va faire mal parce qu'il y a trois de ces sept équipes-là qui vont tomber rapidement avant le carré d'or. C'est difficile. Quand tu regardes la situation, Charlottetown a une coche sur à peu près tout le monde parce qu'ils ont des matchs de plus en disputés. Si tu regardes le classement ce matin, Québec a 65 points, Charlottetown 63, mais Charlottetown a 5 matchs de plus à disputer. Donc, de bonnes chances là, de s'emparer du premier rang du classement général. Il y a une belle lutte entre Shawinigan et Sherbrooke là, pour le sommet de la section qu'ils partagent, la section centrale. Il faut qu'on se parle cette semaine, avant d'aller en détail équipe par équipe, du format des séries. La Ligue n'a pas encore officialisé le tout, mais j'ai eu des informations quand même assez privilégiées qui nous expliquent que cette année, que les séries éliminatoires vont commencer le 5 mai. On sait que la saison va prendre fin dimanche le 1er mai. Ça, c'était connu. À compter du 5 mai, il y aura une première série 3 de 5. La façon dont ça va fonctionner, la section Est et la section des Maritimes vont être regroupées ensemble. Il y a 10 équipes là-dedans. La section Ouest et la section Centrale, il y a 8 équipes là-dedans. Les huit premières de chaque côté vont se qualifier pour les séries. Si jamais l'équipe de 9e position de la conférence de l'Est a plus de points que l'équipe de 8e position de l'autre côté, elle va aller prendre la place. Donc, si on prend l'exemple de ce matin, on n'aurait pas besoin de faire ça parce que Baie-Comeau a 34 points et Cap-Breton 27 points, ce seraient les deux équipes éliminées. Et attention, Victoriaville a 35 points de l'autre côté. Alors, si Baie-Comeau parvient à devancer Victoriaville, pourrait aller se qualifier dans l'Association de l'Ouest pour les séries éliminatoires. Il est important de noter, les trois premières rondes, comme l'an passé, seront des séries 3 de 5. On n'avait pas le choix, il fallait rattraper le temps perdu. On a ajouté un mois à la saison, qui au lieu de se terminer au début avril, se termine au début mai. Mais on avait quand même perdu l'équivalent de 7 semaines. Donc, il y avait un 3 semaines là, qu'on ne pouvait pas reprendre en jouant des séries 4 de 7 si on veut arriver à temps pour la Coupe Memorial. Donc, la première ronde des séries 3 de 5, du 5 au 12 mai. La deuxième ronde, série 3 de 5, du 15 au 20 mai.
À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
La troisième ronde va s'amorcer le 25 mai. Ronde demi-finale va se terminer au plus tard le 1er juin. Et la finale de la Ligue va commencer le 4 juin, la finale de la Coupe du Président. Et si on devait se rendre à 7 matchs, bien, ça prendrait fin mercredi le 15 juin. Et le début de la Coupe Memorial a été repoussé, on le sait, au dimanche 19 juin. En fait, non, au lundi 20 juin. Donc, on aurait 4-5 jours là, pour l'équipe gagnante advenant une série qui sera en 7 matchs. C'est la décision qui a été prise par les représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On sait l'importance qu'on avait de jouer les 68 matchs de la saison. On y tenait. Alors, il semble qu'on sera en mesure de le faire. Là. On est rendu à peu près, pour chaque équipe, là, entre 41 et 45, 46 matchs de jouer. C'est-à-dire qu'il reste plus ou moins là, 25, 26 matchs à jouer pour chacune des formations encore en liste. Et quand on regarde ça froidement, là, ben, il reste à peu près 8 semaines pour jouer ces matchs-là. Donc, c'est dû à peu près 3 matchs par semaine jusqu'au 1er mai. Quand on regarde la situation à ce moment, les équipes qui vont très bien. Ben écoute, les Islanders de Charlottetown ne dérougissent pas trop. Ils sont venus chercher deux matchs cette semaine. Jeudi à Victoriaville, un gain de 3-0, si on pouvait s'y attendre. Mais vendredi, une grosse victoire de 1-0 contre les Cataractes. C'est dommage parce que du côté des Cataractes, il manquait des éléments importants alors que Maverick Bourque est encore blessé. Xavier Bourgault est blessé aussi. Alors, c'est deux choix de première ronde des Cataractes qui n'étaient pas là. On a eu droit à un match extrêmement défensif. Les Islanders n'ont permis que 11 tirs au but. Aux Cataractes. Alors, avant de poursuivre avec les autres équipes et le constat de la semaine dans la LHMQ, j'ai fait un brin de jasette plus tôt ce matin avec Xavier Simoneau des Islanders de Charlottetown. Xavier Simoneau là, qui va très bien cette saison avec les Islanders. L'espoir du Canadien là, est au 7e rang des compteurs du circuit avec 62 points en 34 matchs. Alors, voici cet entretien avec Xavier Simoneau.
Xavier, les Islanders de Charlottetown sont venus faire un voyage éclair la semaine dernière au Québec. Deux matchs en deux jours. Vous êtes sortis de là avec deux blanchissages. Je pense que le match contre Shawinigan aussi, c'était peut-être une espèce de message. On avait hâte de voir là, peut-être une des meilleures équipes ici au Québec versus une des meilleures équipes là, dans les Maritimes. Ça s'est bien passé pour vous. Vous avez accordé 11 lancés seulement.
Oui, tu sais, je pense que c'était une partie de nos défauts qu'on avait contre Halifax. On avait accordé beaucoup de lancers puis beaucoup de scoring chance aussi. Je pense que l'entraîneur n'était pas fier de nous. On a fait beaucoup de vidéos aussi. Les gars se sont parlé aussi. C'est le fun d'aller au Québec. C'est jamais facile non plus. Puis quand tu es capable de sortir de là avec deux blanchissages aussi, je pense que c'est le fun. Mais tu sais, deux blanchissages avec peu de lancers aussi, c'est encore plus le fun.
Vous êtes en bonne position en ce moment. Il reste quoi, 27 matchs à jouer? Quand on regarde les points que vous avez, les matchs en main, vous êtes bien placé pour terminer premier au classement général. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup présentement là, dans votre vestiaire?
Aucunement. T'sais, c'est sûr que tu veux te placer dans le meilleur scénario possible pour les séries. Mais on est en très bonne posture présentement. On veut juste continuer de jouer de la bonne façon. Puis c'est vraiment un jeu défensif qu'on veut. Alors, on sait qu'on est une équipe qui peut scorer des buts. Mais on sait qu'en playoff, on a besoin de jouer défensivement. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on veut contrôler. Puis en jouant de la bonne façon, je pense que les points vont être tout seuls. Puis le classement, mais ça fait que c'est juste pour l'avantage de la glace au bout de la ligne.
Vous aviez un gros top 4 avant l'arrivée de Biakabutuka qui a venu ajouter à ça. Vous avez ajouté un gardien d'expérience aussi que tu avais connu, puis tout ça. Quand ces deux acquisitions-là sont arrivées, je ne veux pas minimiser les autres, là, mais ça a vraiment lancé le message. On est all-in cette année, là.
Oui, je pense que Jim nous l'avait dit aussi dans le début d'année que c'était all-in pour lui et pour tout le monde. Je pense qu'on avait l'équipe pour le faire aussi. Déjà qu'on avait une bonne équipe, on devait chercher deux gros morceaux en défensive, puis on est allé chercher du punch à l'offensive aussi. Donc, on est une équipe vraiment complète. Puis on peut faire extrêmement de ravages avec cette équipe-là. Là.
Ça fait assez longtemps que je suis dans cette ligue-là. Es-tu capable de dire que c'est une des bonnes équipes que tu as vues dans les 4-5 dernières années?
Ouais, tu sais, j'ai quand même vécu l'année à Drummondville où est-ce que j'étais plus jeune, mais je pense que on a une équipe vraiment en maturité ici. Les gars buy-in de tout dans les bonnes directions aussi. Donc, c'est probablement la meilleure équipe avec qui j'ai joué et j'ai vu dans cette ligue-là.
L'an passé, plein de gens disaient ouais, Charlottetown, ils ont une bonne fiche, mais ils jouaient toujours contre des équipes en reconstruction dans les Maritimes. On a joué beaucoup de matchs contre Halifax, Cap-Breton. Je sais que tu n'étais pas là, mais tu en as entendu parler, c'est sûr. Là, c'est tout le contraire cette année. Vous avez des gros matchs presque à chaque partie avec Saint-Jean, avec Batters. Même Halifax, ça, c'est pas une proie facile.
Oui, tu sais, puis je ne veux pas rien enlever dans les autres sections non plus, mais je pense que le message était clair aussi. Même les gars, on en parle des fois que. L'année dernière, ils sont arrivés en série, ils ont affronté Vito, puis ils n'étaient pas vraiment habitués de jouer contre un gros club aussi, donc ça aurait pu leur faire mal aussi. Cette année, à chaque match présentement, le plus que notre 3 gars, notre calendrier, je pense qu'ils ont des équipes de qualité aussi, donc c'est le fun aussi personnellement, mais aussi en tant qu'équipe, on peut s'améliorer, puis on va être vraiment prêt pour les séries. Là.
On s'entretient avec l'espoir du Canadien Xavier Simoneau à Charlottetown. Je regarde la liste des compteurs. Trois espoirs du Canadien dans le top 10 des compteurs. On n'a pas vu ça souvent dans les dernières années. Certains vont dire, c'est sûr, ils n'en repêchaient jamais, mais cette année, ils en ont repêché beaucoup. Puis ça donne que vous allez bien tous les trois, là, Joshua, toi, puis Riley Kidney. Ça c'est. Est-ce que pour toi, c'est une fierté encore qui est perceptible à chaque match d'être un gars du Canadien là, quand tu visites un peu partout? Là?
Oui, c'est sûr que c'est une fierté. Tu sais, je suis content pour ces gars-là aussi. C'est des gars juniors. On a peut-être été oubliés dans le passé, mais on a eu notre chance. J'avais juste besoin, du côté personnel, j'avais juste besoin d'une chance. Je pense que le Canadien m'a fait une chance. C'est à moi d'aller chercher un contrat. Pour les deux autres, c'est tout le temps deux bons joueurs que j'aime affronter. C'est deux bons joueurs que j'aime regarder aussi. Donc, c'est le fun de voir qu'on est là présentement.
Est-ce que pour toi, ça te fait un meilleur joueur, une meilleure personne d'avoir eu cette expérience-là dans les Maritimes là, à 20 ans, de sortir de Drummondville où tu étais confortable puis d'aller un peu dans l'inconnu?
Ben, on va se l'avouer que je suis même pour du côté familial, mes parents étaient là probablement à chaque fin de semaine. Je m'en vais très loin. Mes parents sont venus ici une fois, mais je parle côté personnel puis hockey. Je vois un nouveau système de jeu, je vois un nouvel environnement aussi. On va se le dire, mon anglais n'était pas terrible quand je suis arrivé ici. Puis, je peux me permettre de devenir quasiment bilingue en revenant. Puis, je vois un autre côté aussi du monde des Martins, donc c'est vraiment le fun. Tant au hockey, mais tant aussi du côté personnel. Là.
C'est plus relax, hein? C'est ce qu'on dit. Hein? Ouais, à l'île du Prince-Édouard, on ne s'énerve pas trop, c'est ça? Hein?
Oh non, il n'y a pas de stress ici.
Oui, c'est ça. Hey, écoute, Xavier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne continuité pour votre saison. Puis, on suit tes performances à distance. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Toujours aussi agréable de faire un brin de jasette avec Xavier Simoneau. Vous savez, je retiens des choses de cette entrevue-là quand il dit « je ne parlais pas beaucoup anglais quand je suis arrivé ici ». Peu importe si ce jeune homme-là fait ou non un joueur de hockey un jour, ben, quand on parle que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, souvent c'est une école de vie. Ben, on vient d'en avoir une preuve, là, et ce n'est pas le seul, évidemment. Il y en a plusieurs autres là, au fil des ans qui, justement, de par une transaction qui les avait fait passer à l'époque Cap-Breton ou à Halifax, à Moncton, ça a changé leur vie. Et je me souviens, je ne veux pas nommer le nom, là, peut-être qu'un jour on l'aura en entrevue s'il accepte de parler, de revenir sur cette expérience, mais je me souviens d'un joueur il y a plusieurs années qui jouait pour les Remparts de Québec, qui était très confortable, et on l'échange au Cap-Breton et est en pleurs, remet en question s'il va continuer à jouer au hockey ou non, puis n'accepte pas du tout cette transaction-là qui, selon lui, l'envoie à ce moment-là au bout du monde. Et vous savez quoi? Ben, il a rencontré la femme de sa vie là-bas. Aujourd'hui, il est enseignant, il est bilingue, il demeure au Cap-Breton, dans la région là-bas. Donc, c'est une belle histoire. Ça. C'est ce genre de choses qui arrive souvent dans la LHGMQ après ma barre. Et dans le cas de Xavier Simoneau, là, je ne suis pas en train de dire qu'il va faire sa vie à Charlottetown, mais si le fait d'avoir passé une saison là-bas, d'avoir côtoyé un bonhomme comme Tim Holton, qui a été un entraîneur dans la Ligue nationale et qui revient de là avec... l'anglais pas mal plus acquis pour la suite des choses pour lui, parce que bon, l'an prochain, il va frapper à la porte, évidemment, du Rocket de Laval. Il va être un peu va suivre un peu les traces de Raphaël Harvey-Pinard. Moi, je trouve ça vraiment une très, très belle histoire. Parmi les nouvelles à surveiller, les nouvelles à retenir plutôt de la dernière semaine, il y a William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean. Les Sea Dogs viennent de gagner 4 matchs de suite. Ils ont marqué 32 buts en 4 matchs. Dufour en a marqué 9 de ces 32 buts-là. Il a atteint le plateau des 40 buts, William Dufour, en 42 matchs. Il est le meilleur buteur de la Ligue, 7 buts de plus que Patrick Gay des Islanders de Charlottetown. William Dufour est un espoir, un choix de 5e ronde des Islanders de New York, qui attend toujours de signer son premier contrat professionnel. Lou Lamoriello n'est pas toujours le plus rapide sur la gâchette là, pour ses jeunes espoirs, mais il a encore du temps quand même. Il a joué au 1er juin pour signer son premier contrat. Je vois mal comment les Islanders ne lui offriront pas un contrat avec la saison qu'il connaît présentement. S'achemine pour devenir le premier compteur de 50 buts dans la LHGMQ depuis Alex Barré-Boulay. Ça fait quand même quelques années. Vous allez dire, bon, en 2018-19, il n'y en a pas eu. 19-20, la saison a été courtée. Même chose l'an dernier, mais bon. Il n'y a pas eu de marqueur de 50 buts dans la LHJMQ depuis Alex Barré-Boulay en 17-18. Et si on fait une règle de 3, il y a même une chance de se rendre à 60 buts. Et ça, on n'a pas vu ça encore depuis beaucoup plus longtemps. Là. Alors, ça va très bien pour William Dufour présentement, là, qui est un espoir des Islanders de New York, qui était pris en 5e ronde, qui au début, on ne savait pas trop. Et honnêtement, là, il connaît toute une saison avec les Sea Dogs de Saint-John. Parmi les 10 premiers marqueurs du circuit, on a toujours... Les trois espoirs du Canadien, on vient de parler à Xavier Simoneau qui est au 7e rang. Riley Kidney a grimpé au 9e rang avec le Titan. On a connu un match de 5 mentions d'aide samedi à Rouyn-Noranda avec le Titan de Caddy Batters. Et c'est toujours Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke qui est au 1er rang avec 78 points en 40 matchs. Lui aussi un choix de 5e ronde, mais du Canadien celui-là. Il n'a que 18 ans, Joshua Roy, contrairement à William Dufour qui en a 19. Donc Roy sera de retour avec Sherbrooke la saison prochaine. Il y avait des gros matchs cette semaine. On a parlé du duel entre Charlottetown et Shawinigan qui a eu lieu vendredi soir au centre Gervais-Auto. Une victoire de 1-0 des Islanders. Jeudi, le Titan de Caddy Batters était en visite face aux Olympiques à Gatineau au centre Slush Puppy. Et j'en ai profité pour aller faire un petit tour de ce côté-là et m'entretenir avec l'entraîneur-chef du Titan, Jason Clark. Malheureusement, comme il me l'a dit lui-même, il ne peut pas encore s'exprimer en français. Il espère bien être capable de le faire très prochainement. Quand il s'est amené à la barre du Titan le 2 décembre, on parlait du Titan avec une fiche de 500 cette année. Il y avait 10 victoires, 10 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Depuis qu'il est à la barre de l'équipe, ça fait 19 matchs, 14 victoires, 3 défaites et 2 défaites en bris d'égalité. Il y a eu une défaite hier contre Val-d'Or 6-2 là, qui était à la fin d'un voyage. On avait joué à Drummondville, Gatineau, Rouyn-Noranda auparavant. Mais le Titan de Caddy Batters, c'est une excellente formation. Et dans cette équipe-là, il y a Bennett MacArthur qui a signé un contrat avec le Lightning de Tampa Bay. C'est un des sujets que j'ai abordé avec l'entraîneur Jason Clark. Je lui ai parlé également de Miguel Tourigny, qui marque peut-être un peu moins de buts depuis sa venue à Batters, mais qui semble s'épanouir comme un défenseur plus complet. Lui qui est à la chasse au record de Marc-André Bergeron, 42 buts en une saison. Là, il a pris du retard un peu. Il était bien parti là, à mi-chemin de la saison, mais là, comme je vous dis, il marque un petit peu moins. Alors, c'est un autre sujet qu'on a abordé avec Jason Clark. Alors, la prochaine entrevue est en anglais. Mes questions sont un petit peu difficiles à entendre. On a eu un petit problème au niveau du son, mais je vais quand même vous résumer. On entend très bien les réponses de Jason et je vais vous résumer l'entrevue tout de suite après, au retour. Donc, voici Jason Clark, l'entraîneur-chef du Titan d'Acadie Batters.
Oh, yeah. I mean, like, anytime you can string some wins together like we have, you mean any coach is going to be happy. But, I mean, the last couple of wins, we haven't really kind of played the game the right way. We've been winning with our talent. So, I think tonight will be a big test for us, too. We need to be able to make sure we play the game the right way against this hockey club.
Was it tough for you to come over there and not really knowing the team? And you just arrived in the league last fall. So, was it tough for you to go there and find out that you have to go through all the teams and all the...
I mean, it was a bit of an adjustment, but I'll be honest with you. In Shawinigan, Dan Renault and Martin Mondou were very good to me, and they were able to really kind of help me, even though I was an assistant coach, kind of help me with the league and, you know, the ins and outs of the league, and they were very good to me. So, you know, coming to Bathurst was a little bit easier, obviously, than never have been coaching in Major Junior. But, again, being able to work with Sly Couture, who's a 20-year veteran in this league, has been very obviously been very helpful for me. It was always my goal to be able to coach Major Junior. You know, owning the Carlton Place Junior A Canadians for 13 years. You know, I had a young family at the time, and I never wanted to be a part-time dad. So now that all my kids are gone and doing their own thing now, it was time for me to concentrate on my career. And I'll be honest with you, I didn't think I was going to be a head coach in the first 3 months of my career in the queue. But it happened that way, and I'm very thankful for the opportunity that Sly Couture has given me.
Charlottetown and St. John and Halifax all the time. You are in a pretty tough second division. You think you're going to be more prepared when the playoffs are going to come?
I think you know what our focus has been so far since I've been here is just to being more process orientated and not results orientated. I think being able to play those teams on a regular basis is really helping us get through the process and understanding what it takes to be able to win, you know, on a regular basis. So, I mean, you know, in answer to that question, I mean, playing those teams is always tough, and it's helping us prepare for sure.
It's going to be tough to get Charlottetown. I mean, they have a good lead so far, and they're winning a lot of games too. So are you concentrating on what finishing third in the association, or what do you say?
I'll be honest with you, we haven't really talked about about the standings too much. It's just more about the process for us. We don't want to be, results orientated. We're just trying to be process orientated. I think it's really important that we just continue to grow together as a group and, you know, continue to figure out how we want to be able to play on a regular basis and all the time. And I think that's the biggest thing for us right now.
Yeah. 52 goals in the last 53 games or something like that. So for you too, is something should have happened before?
You mean if you spend 5 minutes talking with Brendan McArthur, you understand why he was signed by the Tampa Bay Lightning. As mature of a kid he is, he plays the same maturity on the ice. He's just a wonderful person to be around, just a very dedicated and process-oriented individual. And it's no surprise to me after spending 3 months with me that Tampa Bay has signed him. Just seeing the way he you know, conducts himself on a daily basis on and off the ice and how he is with his teammates, like the signing to me is not shocking at all.
Would you say you changed something on the way Miguel Turin is playing since he's better? I was seeing him a lot in Wobbly Young. He was rushing all the time, and I'm watching your game now. I don't say he's not rushing the attack anymore, but I would say he's more conservative. Do you think you changed a little bit something on that?
I think the one thing is with Miguel is that you've got to be able to let him accelerate his strengths. I think the big thing with him is just that knowing when to use his strengths and when to kind of back off. And it's a process. I mean, he's a very, very elite, talented player. And I think the great thing about him is he wants to get better. He wants to learn how to be able to really kind of accelerate his strengths but do it to a point where it's not going to deteriorate, you know, the team play, right? So, I mean, he's getting better all the time. He knows that he still continues to need to work on those things, but, I mean, he's a great kid that wants to get better. So his game has definitely been a lot more responsible than what I thought it was going to be since he got here, that's for sure.
Alors voilà, un entraîneur très sympathique avec qui j'ai eu la chance de bavarder donc pour une première fois. Jason Clark a fait ses classes dans la Ligue Junior A de l'Ontario. Il me faisait remarquer d'ailleurs que plusieurs entraîneurs ont passé par cette ligue-là, notamment Dominique Ducharme, qui a déjà dirigé Hawkesbury, Bob Hartley, qui a déjà dirigé Hawkesbury, Éric Veilleux a passé par là aussi, Sylvain Favreau des Moussettes d'Halifax a passé par là. Lui, pendant 13 ans, il était le propriétaire, directeur général et entraîneur-chef des Canadiens de Carlton Place. Et c'est une équipe qui a connu beaucoup de succès. À un certain moment, il a gagné 4 championnats consécutifs. Il s'était amené en début de saison comme entraîneur adjoint de Daniel Renault avec Shawinigan, qu'il avait engagé l'été dernier. Alors, il aura somme toute été adjoint seulement quelques mois. Et là, on lui a offert la possibilité de devenir entraîneur-chef avec le Titan. Il a évidemment remercié les Cataractes, Martin Mondou, Daniel Renault. Et surtout, également, Sylvain Couturier, qui est le DG du Titan depuis une vingtaine d'années, de lui avoir fait confiance. La façon dont l'équipe joue, il dit oui, on gagne des matchs, mais des fois on gagne avec notre talent. On n'a pas nécessairement gagné avec la bonne façon de jouer. Il a beaucoup parlé de la façon de jouer qui est importante.
Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi, une comédie à regarder dès le 26 avril sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste. Le sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
Joue dans une division difficile. C'est sûr que, sans parler de rang au classement, ça prépare bien l'équipe là, pour la fin de la saison. Et je pense que c'est une bonne chose de jouer le Charlottetown et Saint-John régulièrement. D'ailleurs, il y a un gros match mercredi là, entre le Titan et les Sea Dogs dans cette lutte là, pour le positionnement pour les séries éliminatoires. Un mot sur Bennett MacArthur. Il n'a pas tari d'éloge. J'ai passé 5 minutes avec lui. Vous constatez sa maturité, mais il joue d'une façon mature sur la glace aussi. Pour lui, il n'y a pas de surprise que le Lightning de Tampa Bay lui a offert un contrat. Au moment où il lui a offert ce contrat, si on remonte en avril de l'an dernier, MacArthur avait marqué 52 buts à ses 53 derniers matchs de saison et séries éliminatoires inclus. Et en terminant, je lui ai parlé un peu de Miguel Tourigny. On était un petit peu pressé par le temps. Il aura besoin de 20 buts en 27 matchs, Tourigny, là, pour espérer égaler la marque de 42 buts en une saison par un défenseur qui appartient à Marc-André Bergeron à l'époque avec les Cataractes de Shawinigan. Ça va être difficile. Il dit qu'il s'est beaucoup amélioré dans l'ensemble de son jeu, son jeu de transition, sa défensive et tout ça. Il devient un joueur plus complet. Miguel Tourigny, qui, on le sait, est un joueur qui est toujours disponible pour la séance de sélection de la Ligue nationale, n'a pas été repêché au cours des deux dernières années. Le joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec, Josh Lawrence des Sea Dogs de Saint-John, 4 buts et 6 passes pour 10 points en 3 matchs. Alors lui aussi, là, avec William Dufour, connaît beaucoup de succès. Petite parenthèse, j'ai oublié de donner le joueur de la semaine dans la Ligue américaine tantôt, John Leonard des Barracudas de San Jose, qui a 5 buts et 2 passes en 3 matchs. Donc, pour la LHJMQ cette semaine, le rendez-vous à retenir, c'est notre deuxième match en direct sur les ondes de RDS vendredi soir au Colisée Desjardins à Victoriaville, où les Tigres vont accueillir les Cataractes de Shawinigan. C'est pas facile pour les Tigres par le temps qui court. Il y a beaucoup de blessés. Ils ont mis fin hier, les Tigres, à une séquence de 8 défaites en revenant de l'arrière pour vaincre les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, ne se présenteront pas dans notre match télévisé vendredi soir là, avec une séquence de défaites. Mais il reste que ce n'est pas facile. Dans le cas de Shawinigan, il y a des blessés aussi, mais l'équipe a tellement de profondeur qu'elle réussit à gagner des matchs. Il y a possibilité que Maverick Bourque revienne au jeu vendredi soir, lui qui est originaire de Plessisville, juste à côté de Victoriaville. Alors, ce n'est pas impossible qu'on le revoie vendredi, mais on ne devrait pas voir Xavier Bourgault qui est aussi absent. Petit mot peut-être sur les Lions de Trois-Rivières de la ECHL. Traversent une très, très vilaine séquence. Eux aussi le viennent de terminer à la maison une séquence de 7 matchs et ils n'ont remporté qu'une seule victoire et ils ont eu quelques dégelés, là, 2 fois 6-1 contre le Maine, contre Terre-Neuve, 1 fois 10-3 contre Terre-Neuve. La troupe d'Éric Bélanger amorce un séjour de 4 matchs en 5 jours contre les Growlers à Terre-Neuve, justement, cette semaine. Il y a une bonne rivalité entre ces deux équipes-là qui s'affrontent, à mon humble avis, beaucoup trop souvent dans une même saison. On va être rendu lorsque cette séquence-là va être terminée, la 13 affrontements entre ces deux équipes cette saison. Alors, évidemment, les Lions sont touchés. Quand le Rocket de Laval rappelle des joueurs comme Olivier Galipo, comme Justin Ducharme, comme Peter Abandonato, Il y en a eu d'autres aussi durant la saison. Bien, c'est sûr que ça affecte le rendement des Lions de Trois-Rivières. Il n'y a aucun doute là-dessus. Petit mot peut-être sur ce qui se passe dans les autres circuits. En Ontario, bien, les Bulldogs d'Hamilton ont pris le premier rang du classement général. 34 victoires, 11 défaites, 4 défaites en bris d'égalité. Ils viennent de gagner leurs 9 derniers matchs. Je ne sais pas si cette équipe-là va aller jusqu'au bout, mais ce serait très agréable de voir les Bulldogs d'Hamilton gagner et se présenter à la Coupe Memorial. Ils ont deux espoirs du Canadien dans leur équipe. Yann Michak, à qui on a parlé ici à Onjaz, 51 points en 45 matchs cette saison, donc 27 buts. Amber Chekai, aussi le défenseur qu'on a signé comme joueur autonome, 11 points en 18 matchs. Et c'est cette équipe qui est allée chercher Mason McTavish aussi, qui depuis son retour des Jeux olympiques n'a pas ralenti. Il a 16 points en 8 matchs avec les Bulldogs d'Hamilton. Dans l'Ouest, les mêmes équipes continuent de dominer. Caden Goulet a joué devant l'état-major du Canadien vendredi soir avec les All Kings d'Edmonton. Goulet qui a 10 points à ses 10 derniers matchs, une fiche de plus 12. A fait bonne impression là, dans le match de vendredi, au dire des collègues qui étaient là. Petite parenthèse, on suit toujours évidemment Connor Bedard. Lui, il a 31 points à ses 15 derniers matchs. Il a obtenu au moins un point à chacun de ses 15 derniers matchs. Ça ne ralentit pas trop pour Connor Bedard, qui n'a que 16 ans, faut-il le rappeler. Le championnat du monde des moins de 18 ans, on avait publié le calendrier. Ça va se dérouler du 21 avril au 1er mai en Allemagne. Le calendrier était tout publié, mais là, on a retiré la Russie et le Bélarus de la compétition. Donc, on devra attendre pour savoir quels pays vont remplacer ces deux nations. J'ai été voir sur le site Internet de la Fédération internationale et là, le calendrier, il y a des petits espaces blancs à gauche, à droite, mais pour le reste, la compétition, ça tient en Allemagne du 21 avril au 1er mai. On va vous présenter le entre 8 et 10 matchs de ce tournoi-là sur les ondes de RDS, évidemment, dans quoi, 6 semaines. Et c'est toujours intéressant ce tournoi-là parce que c'est le tournoi qui implique les espoirs pour la plupart qui sont en liste pour cette année. J'ai hâte de voir si on va être en mesure d'envoyer des joueurs de la LHJMQ à ce tournoi-là. On sait que l'an passé, on n'avait pas pu en envoyer parce que la LHJMQ était la seule des trois ligues au Canada toujours en action. Mais quand vous regardez les dates, 21 avril au 1er mai, la saison LHJMQ ne sera pas terminée. Alors qu'en Ontario et dans l'Ouest, il y aura des équipes éliminées. Dans l'Ouest, il va y avoir 6 équipes éliminées. Dans l'Ontario, il va en avoir 4. Alors, est-ce qu'on va construire l'équipe canadienne seulement avec les joueurs de ces 10 formations-là? Est-ce que certaines équipes vont avoir déjà commencé les séries éliminatoires et vont être en mauvaise position d'aller peut-être aider le Canada? Alors, peut-être que le Canada n'aura pas sa formation numéro 1 pour ce tournoi-là qui aura lieu, je le rappelle, en Allemagne. Je discutais avec des collègues cette semaine, commence à s'informer un peu des espoirs dans le midget 3A en vue du repêchage de la LHJMQ qui aura lieu au mois de juillet, au début juillet. Le premier compteur, incidemment, de la Ligue midget 3A, c'est Justin Poirier, le frère de Poirier qui joue également avec les Sea Dogs de Saint-John, le défenseur. Lui, c'est un attaquant, Justin Poirier. J'ai un blanc de mémoire, moi, là, attends un petit peu, ça... Pas de bon sens, on ne laissera pas ça comme ça. Justin Poirier, donc des Grenadiers de Châteauguay, qui va très bien par le temps qui court. Il a 33 buts depuis le début de la saison. J'entends de bonnes choses sur lui. Alors, est-ce qu'il sera le premier joueur réclamé? On verra bien, mais c'est le frère de Jérémy Poirier. Je cherchais le prénom du défenseur des Sea Dogs de Saint-Anne, Jérémy Poirier. Alors, il est, semble-t-il, un espoir très intéressant. Marc Boutou, il a 15 ans. Les Chevaliers de Lévis sont toujours au premier rang du classement général de la Ligue Midget 3 avec 27 victoires. J'entends également beaucoup de bien sur le nom du gardien de but, Gabriel Daigle, des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Alors, au cours des prochaines semaines, on aura l'occasion de parler un petit peu plus là, des espoirs de la Ligue Midget 3 qui frappe à la porte de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mes invités, Danick Martel du Rocket de Laval, Xavier Simoneau des Islanders de Charlottetown, Jason Clark du Titan de Caddy Batters, à la technique Guillaume Poliquin qui était là, à la recherche cette semaine Christian Daou, à la coordination Luc Dansereau et Catherine également qui nous a donné un coup de main cette semaine. Qui fait toujours de l'excellent travail. Donc, Catherine Bourgoin qui était avec nous pour remplacer cette semaine. En mon nom personnel, donc, et en nom de toute cette équipe, je vous souhaite une excellente semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.